Le silence fut lourd et pénible. « Monsieur l'inspecteur principal, vous avez du monde sur la place, n'est-ce pas ?»«
Deux brigadiers. » »«
Il y aurait intérêt à ce qu'ils fussent là. Veuillez aussi prier le patron qu'on ne nous dérange sous aucun prétexte. » Et lorsque Morisseau fut de retour, Rénine ferma la porte, se planta devant Dutreuil et scanda d'un ton de bonne humeur. « Somme toute, jeune homme, de 3 heures à 5 heures ce dimanche-là, ces dames ne vous ont pas vu. C'est un fait assez curieux. Un fait tout naturel, et qui du reste ne prouve rien du tout. Qui prouve, jeune homme, que vous avez eu à votre disposition 2 bonnes heures. Évidemment, 2 heures que j'ai passées au cinéma. Ou autre part. Ou autre part ? Dutreuil l'observa. Oui, puisque vous étiez libre. Vous avez eu tout le loisir pour aller vous promener à votre guise. Du côté de Suresnes, par exemple. Suresnes, c'est bien loin. Tout près. N'aviez-vous pas la motocyclette de votre ami Jacques Aubrieux ? Un nouveau silence suivit ces paroles. Dutreuil avait froncé les sourcils, comme s'il cherchait à comprendre. À la fin, on l'entendit chuchoter. Voilà donc où il voulait en venir. Ah, le misérable. La main de Rénine s'abattit sur son épaule. Plus de bavardage. Des faits. Gaston Dutreuil, vous êtes la seule personne qui savait ce jour-là 2 choses essentielles. Premièrement, que le cousin Guillaume avait 60 000 francs chez lui. Deuxièmement, que Jacques Aubrieux ne devait pas sortir. Tout de suite, le coup à faire vous a paru. La motocyclette était à votre disposition. Vous vous êtes esquivé pendant la séance. Vous avez été à Suresnes. Vous avez tué le cousin Guillaume. Vous avez pris les 60 billets de banque et vous les avez portés chez vous. Et à 5 heures, vous retrouviez ces dames. Dutreuil avait écouté d'un air à la fois goguenard et ahuri, en regardant de temps à autre l'inspecteur Morisseau comme pour le prendre à témoin. C'est un fou, il ne faut pas lui en vouloir. Lorsque Rénine eut fini, il se mit à rire. Très drôle, une bonne farce. C'est donc moi que les voisins ont vu aller et revenir à motocyclette. C'est vous, caché sous les vêtements de Jacques Aubrieux. Et ce sont les traces de mes doigts que l'on a relevées sur la bouteille dans l'office du cousin Guillaume ? Cette bouteille fut débouchée par Jacques Aubrieux au déjeuner chez lui. Et c'est vous qui l'avez porté là-bas comme pièce à conviction. De plus en plus drôle. Alors j'ai combiné mon affaire pour que Jacques Aubrieux fût accusé du crime. C'était le plus sûr moyen de n'être pas accusé, vous. Oui, mais Jacques est mon ami d'enfance. Vous aimez sa femme. Le jeune homme bondit, furieux soudain. « Vous avez l'audace ! Quoi ? Une pareille infamie ! » !»« J'en ai la preuve. Oh, »« Mensonge ! J'ai toujours eu pour Madame Aubrieux un respect, une vénération !»« En apparence. Mais vous l'aimez. Vous la désirez. Ne dites pas non. J'ai toutes les preuves. »« Mensonge ! Vous me connaissez depuis tantôt !»« Allons donc. Il y a des jours que je vous guette dans l'ombre et que j'attends le moment de vous sauter dessus. » Il saisit le jeune homme par les épaules et le secoua violemment. « Allons, Dutreuil, avouez, j'ai toutes les preuves. J'ai des témoins que nous retrouverons tout à l'heure devant le chef de la sûreté. Avouez donc ! Malgré tout, vous êtes bourrelé de remords. Rappelez-vous votre épouvante au restaurant quand vous avez lu le journal. Hein ? Jacques Aubrieux condamné à mort ? Vous n'en demandiez pas tant. Le bagne pour lui, ça vous suffisait. » « Mais l'échafaud ! Jacques Aubrieux exécuté demain, lui qui est innocent ! Avouez donc, pour sauver votre tête, avouez donc !» Courbé sur lui, de toutes ses forces, il essayait de lui arracher l'aveu. Mais l'autre se redressa, et froidement, avec une sorte de dédain, il prononça « Vous êtes fou, monsieur ! Pas un mot de ce que vous dites n'a le sens commun. Toutes vos accusations sont fausses !» Et les billets de banque, Est-ce que vous les avez trouvés chez moi, comme vous l'affirmiez ? Exaspéré, Rénine lui montra le poing. Oh, canaille ! J'aurai ta peau, va ! Il entraîna l'inspecteur. Eh bien, qu'en dites-vous ? Un fiefé coquin, n'est-ce pas ? L'inspecteur hocha la tête.
Peut-être, mais tout de même, jusqu'ici, aucune charge réelle.
Attendez, monsieur Morisseau. Attendez notre entrevue avec monsieur Dudouis. Car nous le verrons à la préfecture, n'est-ce pas, monsieur Dudouis ?
Oui, il y sera à 3 heures.
Eh bien, vous serez édifié, monsieur l'inspecteur principal. Je vous prédis que vous serez édifié. Rénine ricanait en homme sûr des événements. Hortense, qui était près de lui et qui pouvait lui parler sans être entendue des autres, dit à voix basse « Vous le tenez, n'est-ce pas ?»«
Si je le tiens, c'est-à-dire que je ne suis pas plus avancé qu'à la première minute. »«
Mais c'est affreux. Et vos preuves ?»«
Pas l'ombre d'une preuve. J'espérais le démonter. Il s'est repris, le gredin. »«
Pourtant, vous êtes certain que c'est lui ?»«
Ce ne peut être que lui. » J'en ai eu l'intuition dès le début, et depuis je ne le lâche pas de l'œil. J'ai vu grandir son inquiétude au fur et à mesure que mon enquête semblait tourner autour de lui et se rapprocher. Non, maintenant je sais.
Et il aimerait Madame Aubrieux ?
Logiquement, oui. Mais tout cela, ce sont des suppositions théoriques, ou bien des certitudes qui me sont personnelles. Ce n'est pas avec cela qu'on retient le couperet de la guillotine. Ah, si l'on trouvait les billets de banque, monsieur Dudouis marcherait. Sinon, il me rira au nez.
Alors ?
Murmura Hortense, le cœur serré d'angoisse. Il ne répondit pas. Il arpentait la pièce, affectant l'allégresse et se frottant les mains. Tout allait à merveille. Vraiment, il est agréable de s'occuper d'affaires qui s'arrangent, pour ainsi dire, d'elles-mêmes. Si on se rendait à la préfecture, monsieur Morisseau, le chef doit y être déjà. Et au point où nous en sommes, autant en finir. Monsieur Dutreuil veut bien nous accompagner.
Pourquoi pas ?
Fit celui-ci d'un air d'arrogance. Mais à l'instant même où Rénine ouvrait la porte, il y eut du bruit dans le couloir, et le patron accourut en gesticulant.
Mais monsieur Dutreuil est encore là ! Monsieur Dutreuil ! Des flammes dans votre appartement ! Oh, c'est un passant qui nous avertit ! Il a vu cela de la place !
Les yeux du jeune homme brillèrent. Une demi-seconde peut-être, sa bouche grimaça un sourire que Rénine avisa.
« Ah, bandit ! Tu t'es trahi ! C'est toi qui as mis le feu là-haut, et maintenant les billets flambent !»
Il lui barra le passage.
« Mais laissez-moi donc ! Il y a le feu, et personne ne peut entrer, puisque personne n'a la clé. Tenez, la voici ! Mais laissez-moi passer, sacrebleu !»
Rénine lui arracha la clé des mains, et le tenant au collet,
« Ne bouge pas, mon bonhomme !» Maintenant, la partie est gagnée. Ah, gredin !
Monsieur Morisseau, voulez-vous donner l'ordre au brigadier de ne pas le perdre de vue et de lui brûler la cervelle s'il cherchait à décamper ?
N'est-ce pas, brigadier ? Nous comptons sur vous. Une balle dans la tête !
Il monta précipitamment l'escalier, suivi d'Hortense et de l'inspecteur principal, qui, d'assez mauvaise humeur, protestait.
« Voyons, quoi ? Ce n'est pas lui qui a mis le feu, puisqu'il ne nous a pas quittés. »
« Eh, parbleu ! Il leur a mis d'avance. »«
Comment, je vous le répète, comment ? » ?»«
Est-ce que je sais ? Mais un incendie ne se déclare pas comme ça, sans raison, au moment même où l'on a besoin de brûler des papiers compromettants. »
On entendait du bruit là-haut. C'était les garçons de la brasserie qui essayaient de démolir la porte. Une odeur âcre emplissait la cage de l'escalier. Rénine atteignit le dernier étage.
« Place, les amis ! J'ai la clé !»
Il l'introduisit dans la serrure et ouvrit. Une vague de fumée le heurta, si violente que l'on eût pu croire que tout l'étage brûlait. Mais Rénine vit tout de suite que l'incendie s'était éteint de lui-même, faute d'aliments, et qu'il n'y avait plus de flammes.
« Monsieur Morisseau, que personne n'entre avec nous, n'est-ce pas ? Le moindre importun pourrait tout contrarier. Fermez la porte au verrou, cela vaudra mieux. »
Il passa dans la pièce de devant, où il était visible que l'incendie avait eu son foyer principal. Les meubles, les murs et le plafond, noircis par la fumée, n'avaient pas été atteints. En réalité, tout se réduisait à une flambée de papier qui se consumait encore au milieu de la pièce, devant la fenêtre. Rénine se frappa le front. « Triple imbécile ! Faut-il que je sois bête ?»«
Quoi ?»«
Le carton à chapeau qui était sur le guéridon. C'est là qu'il avait caché les papiers. C'est là qu'ils étaient tout à l'heure encore, durant notre perquisition. »«
Impossible !»«
Eh oui ! On oublie toujours cette cachette-là, celle qui est trop en vue, à portée de la main. » Comment penser qu'un voleur laisse 60 000 francs dans un carton ouvert où il dépose son chapeau en entrant d'un geste distrait? On ne cherche pas là-dedans. Bien joué, monsieur Dutreuil. L'inspecteur, qui demeurait incrédule, répéta.
Non, non, impossible. Nous étions avec lui. Il n'a pas pu mettre le feu lui-même.
Mais tout était préparé d'avance dans l'hypothèse d'une alerte. Le carton, les papiers de soie, les billets, tout cela devait être imprégné de quelque enduit inflammable. Il y aura jeté, au moment de partir, une allumette, une drogue, est-ce que je sais?
Mais nous l'aurions vu, sapristi. Et puis, est-il admissible qu'un homme qui a tué pour dérober 60 000 francs les anéantisse de la sorte? Si la cachette était si bonne, et elle l'était, puisque nous ne l'avons pas découverte, pourquoi cette destruction inutile?
Il a eu peur, monsieur Morisseau. N'oublions pas qu'il joue sa tête. Tout plutôt que la guillotine. Et cela, ces billets, c'était la seule preuve que l'on pouvait avoir contre lui. Comment l'aurait-il laissé?
Comment? La seule preuve?
Évidemment.
Mais vos témoins, vos charges, tout ce que vous deviez raconter au chef?
Du bluff.
Eh ben vrai, vous en avez de l'aplomb.
Est-ce que vous auriez marché sans cela?
Non.
Alors, qu'est-ce que vous réclamez ?